David, merci à tous de votre présence. Merci à M. Brochek qui m'avait permis de vous parler de ce sujet, l'imagerie médicale, un titre un peu vendeur. Je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de vous raconter une histoire. Je vais essayer de vous montrer d'où c'est parti et où est-ce que ça arrive, l'histoire de l'imagerie. Entendez des acronymes souvent, qu'est-ce que c'est que le PET scan, qu'est-ce que c'est que PET-MR, des dynamic imaging. Voilà, je vais essayer de vous expliquer une petite partie de ça. Alors, vous faire de l'imagerie médicale en trois quarts d'heure, c'est extrêmement difficile, mais je vais essayer de vous raconter cette histoire. Alors, tout d'abord, de vous expliquer ces images. S'il y a une diapositive à retenir et à comprendre, c'est vraiment celle-là. Sachez que lorsque l'on fait de l'imagerie in vivo chez l'homme, qu'on utilise des rayonnements ionisants chez l'homme, il y a trois grandes spécialités médicales qui sont accessibles par l'internat, par les étudiants en médecine, que sont la radiologie, la médecine nucléaire et la radiothérapie. Ces trois spécialités qui utilisent les rayonnements ionisants, je vais essayer de vous les expliquer. Et retenez-les parce que ça va être le fil de mon propos avec vous pendant à peu près trois quarts d'heure. Déjà, pour comprendre ce qu'est la radiologie, vous avez tous passé une radio de poumon ou une radio dentaire. C'est un peu comme ça, c'est-à-dire que vous prenez des rayons X, d'accord, et puis vous transmettez ces rayons X au travers du patient, vous transmettez des rayons au travers, et puis vous avez une plaque photo qui est derrière et vous détectez le contraste entre les rayonnements, ceux qui ont été atténués, ceux qui sont passés, vous donne une image. Si vous faites de la radiothérapie, le principe est le même et de plus en plus on utilise des rayons X, mais vous savez qu'on utilise aussi d'autres rayonnements, on utilise de plus en plus des protons, c'est une possibilité, des hadrons comme principe physique. Eh bien ici vous prenez une source de rayonnement, vous transmettez, à nouveau le mot important c'est transférer ou transmettre ces rayonnements au travers du patient, mais là vous ne faites pas d'image. Le problème c'est que vous envoyez des fortes doses, et là ce qui est important c'est de mettre des murs qui sont épais. Quand vous passez rue d'Amiens au centre Henri Becquerel, vous avez un énorme mur qui fait 1 mètre, d'accord, qui vous sépare des accélérateurs par rapport à la rue. Donc là c'est la quantité de rayonnement, et le seul objectif c'est d'irradier une tumeur. Et puis quand vous faites de la médecine nucléaire, la spécialité que je fais, eh bien, ce n'est pas le même principe. Les rayonnements ionisants, ils sont à l'intérieur du malade. Alors, vous les faites boire, vous les faites respirer, vous les injectez chez le patient. Et le patient, il a cette injection. Et là, le mot important, c'est qu'il va émission des rayonnements à l'extérieur. Ils vont être détectés par deux types de machines, les gamma caméras ou les PET scans. On parlera ce soir beaucoup et essentiellement du PET scan. Alors, la radiographie, c'est du diagnostic, d'accord, comme ceci. La thérapeutique, par définition, c'est de la thérapeutique. Et la médecine nucléaire, elle est à la fois diagnostique et thérapeutique. Et l'association des deux, entre le diagnostic et le thérapeutique, fait qu'il y a des évolutions qui sont importantes. Vraiment, on va le voir tout à l'heure, cette diapo est vraiment fondamentale à comprendre et à retenir. Vous savez que la radiologie, ce n'est pas que des rayons X. C'est les rayons X, c'est aussi de la radiographie standard, mais c'est aussi le scanner, ça c'est les rayons X, la mammographie, etc. Et puis les ultrasons, c'est un autre principe physique, d'accord, les ondes ultrasonores, l'échographie et le Doppler, et puis l'IRM qui utilise des champs magnétiques. Alors, c'est les inversions, la modification des spins des protons qui va créer une image. Donc, vous voyez bien que là, quand on parle de la radiologie qui utilise des rayonnements ionisants, c'est uniquement les rayons X, d'accord. Et ces techniques-là sont non ionisantes. C'est pour ça qu'on fait des ultrasons ou des IRM plus facilement à la femme enceinte. Premier chapitre de mon histoire, puisque je pars à la fin du 19e siècle, les bases des deux spécialités qui étaient aux extrémités, la radiologie et la radiothérapie. C'est les grandes découvertes, c'est celles-là que vous connaissez tous, Röntgen avec les rayons X, Becquerel avec les rayons, il prend de l'uranium, il voit qu'il arrive même sans soleil à imprimer une feuille radio, les rayons U, qu'il appelle les rayons U, et puis la découverte du radium et du polonium par Pierre et Marie Curie, pour lequel ils auront chacun des prix Nobel. Vous allez voir que cette histoire, elle est quand même jalonnée de beaucoup de prix Nobel dans le siècle dernier. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce sont des physiciens au départ. Ce sont des physiciens, mais très vite, il y a des applications médicales. Vous connaissez toute l'anecdote de Röntgen se fait tellement peur avec ce qu'il voit dans son générateur de rayons X qu'il demande plutôt à sa femme de mettre sa main devant le générateur de rayons X, et c'est la main de Bertha Röntgen que vous voyez là, d'accord, et qui est ici. Et on n'est pas à l'époque d'Internet, mais cette image-là, elle fait le tour du monde en 5 semaines. D'accord, elle est connue de l'ensemble des pays du monde en moins de 5 semaines. Il y a le docteur Despognes qui, à Lyon, c'est, vous voyez la citation de sa première publication, met une source de rayons X devant une tumeur de l'estomac et la tumeur fond. D'accord, pour fondre comme ça, c'était probablement un lymphome, mais voilà, on se dit on va guérir l'ensemble des cancers. Alors, des années 1900 à 1920, on développe le tube de Coolidge, le tube qu'il y a actuellement dans tout ce qui fait une radio. On développe la dosimétrie, parce qu'on sent que selon qu'on tourne les boutons, ça fait plus ou moins de rayons, donc il se passe sûrement quelque chose. On développe la Röntgen thérapie, c'est-à-dire la radiothérapie moderne, celle que vous connaissez aujourd'hui. Et voyez l'autoportrait du docteur Chicoteau, qui est extrêmement connu, qui irradie une première tumeur mammaire, hein, ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui quotidiennement au centre Henri Becquerel. Et puis la curithérapie, dans laquelle on place de la radioactivité sur la peau, sur des cavités, on commence à mettre ça dans l'utérus, dans des cavités buccales, etc. Donc très vite, on se rend compte qu'il y a un potentiel médical à l'étude de ces rayonnements. Vous savez aussi que parallèlement, hein, il y a des gens qui vont faire des pommades avec la radioactivité, qui vont mettre du radium dans la laine des pulls des bébés. Au jour d'aujourd'hui, ça fait sourire, mais ça a visiblement existé. Ou qui mettent de la radioactivité dans l'eau parce qu'il y a un côté magique à cette radioactivité. C'est pas si rose que ça, puisque très vite, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'effets secondaires, que ce soit chez les patients ou que ce soit chez les opérateurs. Vous voyez là, ces mains des premiers radiologues. Hein, les radiologues mettaient leurs mains devant le tube à rayons X pour régler le contraste. Et une fois qu'ils avaient un bon contraste, ils mettaient la main du malade. Donc, ils prenaient des doses qui étaient considérables sur les mains. Donc, dès 1902, vous voyez, début du 20e, il y a les premiers cancers radio-induits. On se rend compte qu'on est capable d'induire des cancers chez l'homme avec ces rayonnements-là. Et puis, vous voyez, dans une publication, Albert Schoenberg dit « Les cobayes irradiés, tout en conservant le geste du semeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de l'érection, lancent de la semence qui s'avère stérile. » Donc là, on rend stérile des rats avec les rayons. Donc il y a un contraste, hein. D'un côté ça guérit, ça fait du diagnostic, de l'autre côté ça crée des maladies, on ne comprend pas très bien au début du siècle. On s'en sert quand même, hein. Plus d'un million de radios vont être faites pendant la guerre 14-18, une exposition massive des manipulatrices qui vont faire pareil, et c'est probablement la cause qui a tué Marie Curie, qui a été la cause de son anémie et de son aplasie. Alors... pour progresser dans mon histoire, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'à ce moment-là, on fait de la radio. Alors c'est bien pendant la guerre de voir une balle dans un cerveau ici, de voir une jambe cassée, ça reste de l'imagerie anatomique. Et ça, je voudrais que vous compreniez, puisque les concepts ont évolué avec les années, c'est bien de l'imagerie de l'anatomie. Et pour faire comprendre ça, je donne souvent cet exemple-là, vous pouvez faire de la radio ou un scanner, voire une IRM d'une momie. D'accord, c'est comme ça qu'on sait que le fils de Toutankhamon est mort probablement d'une ostéite du tibial. C'est parce qu'on a pu faire le passer dans un scanner et voir qu'il y avait une énorme ostéite sur un tibia. Et donc on peut faire avec cette imagerie anatomique, radiologique, de l'imagerie d'une momie. On verra tout à l'heure qu'avec l'imagerie moléculaire, on ne peut pas faire ça. Alors les rayons X, ça a servi aussi à plein d'autres trucs. Moi j'aime bien celle-là, puisque par exemple on voit ici que dans les noces de Cana de Véronèse, vous voyez que le buveur de vin qui est ici, la Véronèse l'a peint ici le bras plié, mais que les rayons X ont très bien montré qu'au départ il les avait peints avec les bras tendus. Deuxième paragraphe de mon histoire. Là, on a mis en place, dans les 20 premières années du 20e siècle, les bases de la radiologie et de la radiothérapie. La médecine nucléaire, ça vient comment ? La médecine nucléaire, ça vient de manière un peu différente. Je vous mets cette phrase de Claude Bernard qui dit, et je la reprendrai en conclusion, « Nous saurons la physiologie lorsque nous deviendrons capables de suivre une molécule de carbone ou d'azote et de décrire son voyage dans le corps d'un chien, quand il n'imaginait même pas qu'elle puisse se faire chez l'homme, de son entrée à sa sortie. » Alors, il y a un chercheur qui est Georg von Evesy qui, en 1911, cherche à séparer le radium D du plomb. Les chimistes qui sont là parmi vous savent que c'est le même isotope, donc chimiquement, il peut toujours essayer de les séparer, il n'y arrivera jamais. Et il se dit, je vais faire autre chose, parce que c'est sa thèse de science, enfin sa thèse dite de science à l'époque, sa thèse est un échec. Et il se dit, je vais me servir de ça pour essayer d'en faire un indicateur. Donc, et d'ailleurs, s'il y a des thésards dans la salle, c'est un bon exemple. Il prend un pot de fleurs et il met de la radioactivité à l'intérieur. Il met de la radioactivité, il se rend compte que le pot de fleurs est bien sûr radioactif, qu'il émet des rayons, mais surtout, il se dit, tiens, il coupe les fleurs. Et il remarque que les fleurs sont radioactives, enfin les fleurs ou les feuilles sont radioactives quelques semaines plus tard. Il a donc réussi à tracer le métabolisme de la chlorophylle et donc il va développer pendant une dizaine d'années cette notion de suivi d'un processus physiologique dans un organisme vivant. Pour ça, il aura le prix Nobel en 1944. Alors j'entends aussi ceux qui disent finalement c'est assez facile à obtenir, il suffit de mettre de la radioactivité dans un pot de fleurs. Alors de là aussi, c'est un physicien, Georg von Eversy, il va en découler des applications médicales. Très vite, on va savoir grâce à ça, au bismuth 214, et ça c'est l'image de l'article de 1926 qui montre comment on mesure un débit sanguin entre le bras droit et le bras gauche, le métabolisme du sodium, le phosphore 32. On commence à traiter quelques leucémies en injectant des fortes doses de phosphore dans le corps humain. Mais à ce moment-là, vous voyez, on a du bismuth, du rhénium, de l'uranium. Tout ça, c'est quand même pas génial sur le plan médical. L'intérêt biologique est limité. Et puis en 1934, Frédéric et Irène Joliot-Curie se disent on va irradier avec des particules alpha de l'aluminium. Et là, ils voient apparaître l'irradiation, l'émission de neutrons et de positons. Et finalement, ils montrent qu'ils ont produit du phosphore 30 et du silicium 30, produits qui n'étaient pas connus, donc ils produisent des radioéléments artificiels. Pour ça, ils ont un prix Nobel un an plus tard, et à ce moment-là, on se dit, on va avoir des isotopes qui vont être des isotopes biologiques, et ça va être extrêmement intéressant. Et Frédéric Joliot, un an après son prix Nobel, je vous laisse lire cette phrase, voit tout de suite l'intérêt médical. En biologie, par exemple, la méthode des indicateurs, employant des radioéléments synthétiques, permettra d'étudier plus facilement le problème de la localisation et de l'émission d'éléments divers introduits dans les organismes vivants. Là, on est dans le diagnostic. Aux endroits que l'on apprendra à mieux connaître, où les radioéléments seront localisés, le rayonnement qu'ils émettent produira son action sur les cellules voisines. On est dans la thérapeutique, on va détruire des cellules grâce au rayonnement. Ceci trouvera probablement une application en médecine. Mon troisième chapitre, de l'anatomie à la fonction. Pour l'instant, on a vu le développement de l'imagerie anatomique, va se développer grâce à cette notion de Georg Eversy et la découverte d'Irène et Frédéric Joliot-Curie, la notion de médecine nucléaire et la notion d'imagerie fonctionnelle. J'aime bien cet exemple-là. Un radiotraceur, c'est en gros une voiture, une molécule qu'on introduit dans l'organisme, qui va être spécifique d'une fonction, qui va aller quelque part dans l'organisme, sur lequel on branche un phare, un isotope radioactif. Un phare, c'est l'émission d'une lumière. Bon, on émet un isotope. Il s'avère que là, si on met un émetteur de positons, on va émettre deux photons gamma simultanés en même temps. Et le phare, il émet des rayonnements gamma qu'on va détecter avec une machine qu'on appelle le PET scan. Donc ça, vous voyez, comme cette molécule qu'on injecte au patient, elle est spécifique d'une fonction, on a bien de l'imagerie fonctionnelle, on a de l'imagerie de comment fonctionne un organe, comment fonctionne l'organisme, c'est l'imagerie du vivant. D'accord ? Et vous pouvez, alors pour vous le prouver, ça nous arrive de temps en temps, un patient qui pendant une heure va attendre au PET scan, va jouer avec son smartphone, eh bien vous voyez, le smartphone, eh bien, ça active les muscles du bras. Donc vous comprenez bien que si vous essayez de faire un PET scan ou une scintigraphie à une momie, vous pouvez toujours courir longtemps, vous n'en ferez jamais une, ce qui sépare vraiment la fonction de l'anatomie. Mais vous comprenez bien également que c'est extrêmement complémentaire. Quand on fait du diagnostic ou de la thérapeutique, pour faire un diagnostic chez un patient, c'est extrêmement intéressant d'avoir d'un côté l'anatomie et de l'autre côté la fonction. Je vous donne ici un exemple qui est un nodule chaud thyroïdien, une pathologie assez banale. Vous avez ici une thyroïde qui a ses deux lobes thyroïdiens, là, ici, à la base du cou. Mais quand vous faites une scintigraphie thyroïdienne, donc un examen fonctionnel, un examen de médecine nucléaire, vous voyez qu'il y a ici ce qu'on appelle un nodule chaud. Ça veut dire que ce nodule, il produit trop d'hormones thyroïdiennes et vous voyez que le reste de la thyroïde qui, elle, fonctionne normalement est éteinte. Donc il y a bien une thyroïde qui anatomiquement est présente, il y a un gros nodule. Ce gros nodule produit trop d'hormones thyroïdiennes. Il y a bien un hyperfonctionnement de ce nodule thyroïdien. D'un côté, l'anatomie. De l'autre côté, la fonction. Alors ça, c'est bien, mais l'image que je vous montre là, c'est une scintigraphie planaire. C'est toujours une image en deux dimensions. D'accord ? C'est toujours, on a toujours l'aspect bidimensionnel sur ces images. Alors, ça va un petit peu évoluer. Alors, bien sûr, je vous imaginez que dans le temps imparti, je fais des résumés qui sont extrêmement brutaux. Là, on arrive dans les années 70. D'accord ? De la deuxième à la troisième dimension, là, vous avez vu, on a une image planaire. Quand on fait une radio, d'ailleurs, on fait une image de projection. On met le générateur de rayons X devant, on met le détecteur de photos derrière. Et donc, vous avez, on traverse bien tout le malade, on a toute l'épaisseur du malade. On voit les os derrière et on voit le cœur devant. On va vers l'imagerie en coupe. Alors, ça, pour vous, c'est d'une grande banalité comme image. D'accord ? On est tous habitués à voir ces images-là en coupe. Avant les années 70, le seul moyen d'avoir une imagerie en coupe, c'était celle-là. D'accord ? C'était de prendre une scie, de couper le malade en deux. Alors, pour faire du diagnostic chez le vivant, c'est pas top. Donc, vous allez voir que là, il y a eu quelque chose d'extrêmement important, qui est une découverte qui a été faite dans les années 70 par Hounsfield et McCormack, qui consiste à mettre le patient dans une sorte de tunnel, de détecter des informations autour, que ce soit des informations magnétiques, que ce soit des informations de rayons X, que ce soit des informations de radioactivité. On obtient ce que l'on appelle des projections. Et Hounsfield et McCormack ont décrit l'algorithme qui permet de passer de ces projections à l'imagerie en coupe. Et cette image, publiée dans la revue Nature dans les années 70, leur vaudra le prix Nobel en 79. C'est pour ça que les imageurs en coupe, ceux dont vous êtes maintenant parfaitement habitués, le scanner, l'IRM, le PET scan, la gamma caméra, ce sont des tubes. D'accord ? C'est nécessairement un tube, puisque autour, on acquiert des informations tout autour, comme ceci, ici. Que l'élément physique, que ce soit des rayons X, que ce soit des champs magnétiques en IRM, de la radioactivité gamma avec une gamma caméra, ou que ce soit... des émetteurs de positons en PET scan. Et on a toujours ce même concept, radiologie, médecine nucléaire. Alors le premier avec lequel ils ont fait ça, Hounsfield et McCormack, c'est, donc vous avez compris que là je prends des rayons X, je suis bien en radio, je transmets au travers des patients, vous avez compris que là je fais une radio, eh bien on le fait tourner autour du patient. D'accord ? Ça, c'est ce qu'ont fait Hounsfield et McCormack. On acquiert les projections. Ils ont fait un algorithme mathématique qui leur permet de restituer une coupe derrière. Ça, c'est tomodensitométrie en français, CT scan en anglais. Vous allez voir que les acronymes sont parfois un peu barbares à entendre, mais malheureusement, c'est l'évolution anglo-franco voilà, qui fait ces acronymes. Donc là, je vous ai décrit, on fait de l'imagerie en coupe. Sauf que l'imagerie en coupe, ça génère de l'information, beaucoup d'informations, l'imagerie numérique. Et donc, il va falloir intégrer ces informations. Pour vous donner un exemple, ça va surprendre beaucoup d'entre vous, mais sur une journée de PET scan, quand on fait des vacations, on peut gérer jusqu'à 200 000 coupes dans la journée. Ça vous donne un ordre d'idée. On est à 3 médecins pour le faire, mais ça fait à peu près 60 000 coupes à intégrer par docteur. C'est la fin de l'année, fin de la journée, on le sent. Mais va se développer la puissance de l'informatique. À partir des années 90, à partir du moment où vous avez généré des coupes, d'accord, axiales, comme ça, sur votre scanner, ce qu'ont démontré Hounsfield et McCormack, bah, vous les superposez. Donc, un, ça vous permet de les voir de haut en bas. C'est quand même déjà assez sympa. D'accord ? Mais vous pouvez les rééchantillonner. Si vos coupes sont jointives, bah, vous faites des coupes dans tous les sens. Vous faites des coupes axiales, sagittales, coronales. Et puis, vous voyez le patient de tous les côtés. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais si vous imaginez une ligne virtuelle qui part du centre ici, une ligne qui vient vers vous, que vous voyez, que votre œil voit, imaginez, vous voyez le centre du bloc image, du bloc de pixels. Eh bien, là-dessus, vous pouvez vous dire, je vais montrer le maximum, le minimum, ce qu'on veut, la moyenne. Et puis, en fonction de ce que vous montrez, bah, vous voyez, ça montre des images très différentes. Ici, vous avez l'impression que vous avez extrait les poumons du malade. Ici, vous avez l'impression que vous avez extrait tout ce qui est vasculaire. Et ici, vous avez l'impression d'avoir extrait toutes les bronches. C'est uniquement un artifice informatique qui vous permet de faire ça. Alors ces coupes, si vous les superposez, si vous les augmentez un peu en taille, eh bien ici vous avez des coupes de 2,5 mm, mais ici vous faites des coupes superposées de 20 mm, vous avez l'impression de voir tout l'organe. C'est tout simplement un bloc numérique que vous avez pris, vous avez superposé 5, 6, 8, 10 coupes, et vous avez l'impression de voir ici les deux reins extraits du patient. Alors que le patient, ce qui est extraordinaire à comprendre, c'est qu'ici on est bien sûr chez quelqu'un de vivant et qui ressort derrière et il ne s'est rien passé. Vous faites ça de manière linéaire, mais vous pouvez vous dire aussi, tiens, je vais suivre une artère. Ici, c'est une artère, l'interventriculaire antérieure. Eh bien, vous faites ce qu'on appelle, vous pouvez faire ça, vous l'avez fait de manière quadrille, enfin, voilà. Vous pouvez le faire aussi de manière courbe maintenant, sans aucun problème avec la puissance des ordinateurs. Vous pouvez aller plus loin. Ici, je vous demande, où est-ce qu'est le soleil ? Le soleil, il n'est pas là. Donc, vous pourriez me dire, je ne sais pas, puisqu'il n'est pas là. Si, sauf que vous voyez les ombres. D'accord ? Donc le soleil, vous allez me dire, il est nécessairement par là. En plus, vous savez que le soleil, il est plutôt en haut. Donc vous allez me dire, le soleil, il est là. Ben, vous faites le mécanisme inverse, et vous faites ça avec les images dont je vous ai parlé. Vous allez obtenir quelque chose comme ça. D'accord ? Vous mettez de la lumière avec un sens de vue. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des volume render. Alors, je vous donne ces termes parce que ceux d'entre vous qui ont la possibilité de mettre les CD-ROM dans vos ordinateurs, ben, vous voyez ça, les MPR, les VR, etc. Vous avez la possibilité de voir ces images-là. Alors, le faire en noir et blanc, c'est sympa, mais finalement, pourquoi pas mettre de la couleur ? Alors, là, je décide que je mets les os en jaune. Je mets les côtes en jaune et ça me donne cet aspect-là. Vous voyez, je suis toujours chez quelqu'un de vivant, hein, je ne suis pas sur quelqu'un de décédé. Et puis, si je fais ça autour du patient, je fais des vues successives, je les mets à la suite et là, vous voyez que j'ai un scanner coronaire et j'ai l'ensemble du vu de mon cœur autour. Et là, bien sûr, là encore, la source physique, c'est des rayons X. C'est mes rayons X qui ont tourné au patient. Et l'ordinateur m'a permis d'obtenir des coupes. Et moi, j'ai un algorithme informatique qui me permet de voir autour, d'avoir extrait le cœur et qui me permet de montrer ces images. Alors, je décide de montrer là le cœur, mais je peux aussi décider de montrer l'os. Je peux montrer le cœur et l'os, ou le cœur ou l'os. Donc je peux montrer l'un ou l'autre, l'un et l'autre, etc. Ben, c'est ce que je fais là. Vous voyez, je prends un scanner et puis ici, vous voyez, j'extrais progressivement, je fais passer, j'enlève les muscles, j'enlève, etc. Et successivement, vous voyez, c'est un patient de réanimation. Voilà. Et on voit l'intérieur, on a même enlevé le cerveau là et on voit l'intérieur de la boîte crânienne. Ici, c'est la couverture du patient, vous voyez en vert. J'ai décidé que son tube digestif serait en vert, que son foie serait en rouge, que ses vaisseaux seraient en jaune, que son os serait en blanc, et puis je rentre progressivement à l'intérieur. Donc bien sûr, ça me permet de rentrer dans les vaisseaux, ça me permet de rentrer dans le tube digestif, de faire de ce qu'on appelle l'endoscopie virtuelle, uniquement avec les procédés dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'en arrive à un quatrième chapitre de mon histoire. On a vu l'imagerie anatomique. On a compris d'où venait l'imagerie fonctionnelle. Va se développer quelque chose vers les années, à partir des années 80, qui va développer un concept de l'imagerie moléculaire, qui va aller un peu plus loin, et je vous mets en passant par l'imagerie hybride, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Là, on a vu, vous l'avez compris, on fait de la radio, notre générateur de rayons X, qui fait la ligne radio, qui tourne autour, qui fait donc un scanner. L'algorithme qui a permis de faire de l'imagerie en coupe que j'ai obtenu ici. À côté de ça, j'ai mon fameux PET scan ou tomographe par émission de positon en français qui contient une molécule. Là, la voiture, c'est du sucre et le phare, c'est du fluor 18. Je l'injecte à mon patient. C'est pas le même principe qu'à côté. Vous voyez que à côté, mon patient ici, il est irradié, mais quand j'éteins le bouton, il part du service, il n'est plus radioactif. D'accord ? Il a eu des rayons, mais quand vous partez d'une radio ou d'un scanner, vous avez été irradié, mais vous n'êtes plus radioactif. Là, quand vous venez dans un service de médecine nucléaire, vous repartez avec la radioactivité en vous. Donc vous sortez, vous êtes radioactif. D'accord ? Ce produit-là, on l'a vu, il émet deux rayons. Alors je passe sur la physique de l'émission de positons. Retenez qu'il émet deux rayonnements simultanément à 180 degrés l'un de l'autre qui partent à la vitesse de la lumière dans le vide comme tout photon. Vous voyez, ce mécanisme est important. On en détecte à peu près 10 millions par seconde. Donc vous imaginez le niveau de la technologie des détecteurs. On détecte des rayonnements, pour ceux qui font de la physique, toutes les 4 à 20 nanosecondes. Donc une technologie extrêmement performante. Et avec à peu près le même algorithme informatique, là on a pris des projections, eh bien on a ici le PET scan, l'imagerie du sucre, la fonction, ici l'anatomie. Alors d'un côté, l'imagerie et l'anatomie seraient pas mal, voilà, les constructeurs assez vite dans les années 2000 se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas les deux imageurs dans la même machine? Donc c'est ce qu'ils ont fait, on met des PET CT, ce qui permet d'avoir la localisation anatomique de l'imagerie fonctionnelle en un seul temps, le patient passe en même temps un scanner et un PET scan, et puis ça permet de faire tout un tas de trucs qui permettent notamment d'accéder dans les images à ce qu'on appelle la quantification, c'est-à-dire à avoir des valeurs numériques au sein des pixels qui nous permettent d'être extrêmement informatifs, et notamment dans les suivis des traitements qui sont tout à fait intéressants. Alors ça ressemble à ça, quand ça arrive dans la boîte, ça ressemble à ce petit truc-là. Vous voyez qu'il y a toute la couronne de détecteurs qui est autour ici, qui va détecter ces photons qui sont émis à 180 degrés. Ça ressemble à une machine qui est un gros tube, c'est un peu long, parce que bien sûr il y a le scanner et le PET scan qui sont avec. Alors ça donne ce type d'image, vous voyez ici, alors là c'est un peu le même principe que tout à l'heure, ce qu'on appelle cette ligne centrale qui vient, ce qu'on appelle le maximum de l'activité projetée, et vous voyez ici un scanner, ici le PET scan, ça c'est l'image de la répartition du sucre, encore une fois la voiture c'est le sucre, le phare c'est le fluor 18, et ici la superposition des deux. Donc ici vous avez l'anatomie et la fonction superposée. Ça, c'est si j'ai injecté, à la place d'injecter du sucre, j'ai injecté du fluor, c'est les scintigraphies osseuses modernes. Là, la résolution spatiale est de l'ordre de 3 mm, qui est quand même, là aussi, c'est un homme vivant. Donc, on a fait cette image-là, ça dure quelques minutes, et on a une description du squelette extrêmement pertinente. L'intérêt majeur de cette technique, c'est les performances à monitorer les traitements. Ici, vous avez un enfant de 11 ans, qui a un lymphome, on fait 3 cures de chimiothérapie, vous voyez qu'on a entièrement nettoyé. Quand vous avez un cancer de l'œsophage, comme ici, vous avez ici, vous voyez, sur ce PET scan, un cancer de l'œsophage. Avant, il y a 20 ans, 15 ans, cancer de l'œsophage, on faisait 4 à 6 cures de chimiothérapie, toutes les 3 semaines, donc ça prenait 4 à 5 mois, et on attendait pour faire le scanner de contrôle 6 nouvelles semaines pour voir si ça avait diminué de volume. Vous voyez qu'au total, entre le début du traitement et 6 mois, ça prenait à peu près 6 mois. Si votre chimiothérapie elle n'était pas efficace, vous le saviez au bout de 6 mois. D'accord ? Là, vous voyez que là, on a fait un premier PET scan, il y a une tumeur. On a fait un deuxième PET scan, il n'y a plus de tumeur. Au jour d'aujourd'hui, ça, on le fait au bout de 14 jours. Et on a très bien démontré que les patients qui répondent très bien sont les patients dont la survie est un... Je ne vais pas rentrer dans le détail des courbes de survie, mais les patients qui répondent ont un excellent pronostic de survie, alors que ceux qui ne répondent pas, il vaut mieux changer le traitement assez rapidement parce que le pronostic n'est pas très bon. Et ça, on le sait en fait depuis quelques années. Donc c'est un intérêt majeur pour le contrôle et le monitoring de la thérapie, que ce soit de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. On peut injecter chez un même patient plusieurs voitures à 24 heures d'intervalle. Ici, c'est le même phare, mais c'est 3 voitures différentes. Et c'est 3 fonctions différentes. Ici, on étudie la prolifération, ici le métabolisme et ici l'hypoxie de la tumeur. Donc ici, vous avez des voxels dans cette image en 3 dimensions dans lesquelles les pixels verts, les voxels verts, parce que c'est en 3D, sont les pixels hypermétaboliques, les rouges sont des hypoxiques et les bleus et les jaunes sont des hyperprolifératifs. Donc on a des informations in vivo, je vous rappelle qu'on est toujours chez l'homme vivant, d'accord, extrêmement pertinentes. Alors ça, c'est les machines qu'on a maintenant, je ne sais pas si ça parlera beaucoup pour vous, c'est actuellement la machine, on a la chance d'avoir cette machine-là, depuis quelques semaines, c'est actuellement la machine la plus performante au monde. Là, maintenant, on ne voit plus un vaisseau, on voit les parois des vaisseaux. Donc même sur une carotide, là, la résolution spatiale, c'est 4 à 5 mm pour voir une lésion chez un patient comme ça, c'est extrêmement performant. Ça vaut un peu cher. Alors, voilà, ça, vous allez voir que le prix devient quelque chose qui pose un problème dans les années auxquelles nous sommes. Et puis on parlait au départ d'images en plusieurs dimensions, là vous avez compris, on est en images en 3D, là, on peut synchroniser ces images à des signaux physiologiques, je ne rentre pas dans les détails, mais on peut voir bouger une tumeur, et comme on a un PET et un scanner, on peut voir tout bouger, le scanner et le PET, et là vous êtes en 5 dimensions, puisque vous voyez ici le scanner, le PET scan, les images superposées, et que tout ça bouge dans le cadre du cycle cardiaque. Donc vous avez, et on peut aller comme ça relativement loin. Et puis les voitures, entre guillemets, où les traceurs sont de plus en plus spécifiques, là vous voyez dans des revues prestigieuses, des traceurs qui deviennent spécifiques de la maladie d'Alzheimer, avec des anticorps spécifiques, des plaques amyloïdes, sur lesquelles on arrive à marquer des anticorps qui sont relativement spécifiques de certaines pathologies. Et ici, vous avez tous entendu parler de l'immunothérapie, un gain majeur et des avancées majeures dans le traitement d'un certain nombre de cancers avec l'immunothérapie, notamment dans le mélanome et dans le cancer du poumon. Au jour d'aujourd'hui, pour que l'immunothérapie soit efficace, il faut qu'il y ait des anticorps spécifiques, enfin des inhibiteurs de... Enfin, il faut qu'il y ait des anticorps spécifiques sur les cellules pour que le traitement soit actif. Ces inhibiteurs de checkpoint, je ne vais pas rentrer dans les détails, doivent être identifiés sur les cellules. Aujourd'hui, quand on fait ces traitements, on ne sait pas, c'est des traitements qui sont très chers, et on ne sait pas toujours très bien si le patient il a bien ses récepteurs sur les cellules qu'on veut cibler avec ces nouveaux traitements très chers. Eh bien, vous voyez que le PET scan, avec des anticorps spécifiques, donc des voitures spécifiques, ici marqué par un autre phare, qui est le zirconium 89, toujours émetteur de positons, voyez, publié il y a moins de 2 mois dans Nature Medicine ou Nature Communication, sur des progrès tout à fait récents de ces notions-là, et bien encore une fois, toujours chez l'être vivant. Alors, on a vu tout à l'heure que l'IRM, c'était aussi de l'anatomie. C'est un peu de fonction aussi, l'IRM, mais surtout de l'anatomie. Eh bien, on peut coupler un PET scan à un scanner, pourquoi ne pas le coupler à une IRM ? Ce genre de choses se réalise. Vous avez, voyez, cette image corps entier ici. Et un détail près, vous voyez que le coût de la santé va progressivement. Alors, on a développé, nous, une technologie avec un industriel pendant les 2 dernières années qui nous permet de coupler sur une table à coussin d'air 2 machines qui sont quasiment à proximité, à quelques mètres les unes de l'autre, mais séparées par une pièce, sur un matelas à coussin d'air en position de traitement, et on peut avoir le PET scan, le scanner et l'IRM quasiment en même temps chez un même patient. Je regrette que ce soit dommage pour le contraste, mais vous voyez bien que le patient est en position de traitement de radiothérapie, il est bien sur une table plate. Ici, vous avez le PET scanner, c'est un cancer du rectum. Vous avez le scanner, le PET scan que vous avez bien reconnu tout à l'heure. Ici, vous avez l'IRM, ici, vous avez un PET IRM. Vous avez l'image fonctionnelle qui est positionnée sur l'IRM. L'IRM, elle identifie très bien les tissus mous. Le scanner, il identifie très bien les os. Eh bien, vous imaginez que pour le radiothérapeute qui a besoin de définir sa tumeur qui est là, c'est extrêmement intéressant d'avoir non pas une image, mais 2, mais 3. D'accord ? Et c'est sur l'ensemble des 3 images qu'il va définir les contours de ces traitements. Alors, l'histoire continue d'avancer. Et là, on est demain. Là, on a vu, vous avez vu tout à l'heure un PET scan, vous avez vu la largeur des couronnes, même si on a 4 couronnes, 5 couronnes, c'est large comme ça. D'accord ? Ça fait 26 cm de champ. Les gens se sont dit, bah, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un tube complet ? Eh bien, les gens se sont dit, on pourrait essayer de mettre les panels collants. Et là, la sensibilité augmente d'un facteur 40. Les gens, c'est l'université de Sacramento qui a imaginé ce concept-là. Et voilà. Alors, vous voyez ce type de machine qui a été... c'est juste mais c'est probablement la vidéo la plus intéressante de ce topo qui est aujourd'hui. Vous voyez que là, on ne fait plus un PET scan en 6 minutes, d'accord, comme c'est fait aujourd'hui. Là, on fait un PET scan en 1 seconde. Hein, PET scan du corps entier. Donc, ce que vous voyez là, malheureusement pas super bien, c'est si on reprend à 0, le patient est injecté au niveau du pied, voilà. Vous voyez le traceur qui monte dans les veines des membres inférieurs, qui passe dans le cœur, dans la barrière pulmonaire, qui monte dans le cerveau, et tout ça revient par le cœur gauche, par les artères, et voilà, et le sucre se diffuse dans les différents organes, et vous voyez qu'on commence à remplir le foie, les reins, on commence très vite à éliminer par la vessie, et vous voyez qu'à 15 minutes, 14 minutes, eh bien, on a ici le cerveau qui apparaît, et on sait que le sucre se fixe particulièrement dans le cerveau et dans le cœur, et vous voyez qu'à 30 minutes, bon là la vidéo est passée, mais vous voyez que là, au départ, hein, on fait bien une image toutes les secondes avec ce type d'image. Ça a été le modèle a été, enfin, le premier patient est passé, premier sujet témoin est passé il y a quelques semaines sur ce type de machine. Là aussi, ça pose un problème où on, voilà, on ne sait pas où ira la santé et déjà si ça aura un intérêt, mais on est là-dessus déjà demain. Je finis mon histoire, c'est le dernier chapitre, ou presque, de mon histoire sur l'imagerie embarquée, ou ce que je vais appeler le théranostic, ce qu'on appelle maintenant de plus en plus le théranostic, c'est-à-dire qu'on fait du diagnostic pour cibler la thérapie. L'exemple le plus simple, c'est l'iode 131. Quand on traite depuis 50 ans les cancers de la thyroïde avec de l'iode 131, eh bien, l'iode 131 va se fixer dans la thyroïde, détruit les reliquats thyroïdiens et on fait une image derrière. C'était le premier exemple du théranostic. Aujourd'hui, un radiothérapeute, quand il traite un cancer, il a une seule image de référence, c'est le scanner, le même que celui d'Hounsfield et McCormack, 2,79. Il n'a que ça pour traiter sans tumeur pulmonaire. C'est ça qui sert de référence pour son patient. Or, le radiothérapeute, il a d'autres images à sa disposition au jour d'aujourd'hui. Il a l'IRM, il a un PET scan, d'accord ? Et puis surtout, on fait des rayons, donc on fait un traitement. Bah, ça évolue probablement dans le temps. Donc on adapte en cours de traitement une radiothérapie d'un cancer pulmonaire, ça dure plus de 6 semaines, d'accord ? Eh bien, là, c'est un cancer ORL qui dure à peu près 6 semaines aussi. Eh bien, vous voyez qu'à la semaine 3, eh bien, l'image, la volumineuse tumeur qui est là, elle a diminué de volume, son fonctionnement, son hypermétabolisme diminue et vous voyez que ça diminue aussi également ici au bout de 5 semaines. Je ne vais pas détailler tout l'intérêt de ça, mais on a un intérêt à ne pas faire le même traitement pendant 6 semaines s'il est inefficace. Si ici on voit qu'au bout de 3 semaines, eh bien, ça réaugmente, ça redevient très rouge comme ici, il faut peut-être changer la radiothérapie, il faut peut-être changer de traitement. Et ça, pour l'instant, c'est quelque chose que l'on ne fait pas et sur lequel nous, on travaille pas mal et dont on cherche à montrer l'intérêt. Ça fait partie des travaux que l'on essaye de mener au sein de l'équipe, que ce soit au niveau de Becquerel ou au niveau de l'équipe Quantif, hein, sur les liens justement ou comment, avec les images, essayer d'améliorer au mieux la balistique des radiothérapeutes. Et on fait ça en pilotant plusieurs essais nationaux et des résultats qui ont été remarqués puisqu'ils ont fait la couverture de revues prestigieuses ou de présentations dans des séminaires, enfin Royal College of Medicine, ce qui est l'équivalent du Collège de France à Londres, qui était voilà, qui était remarqué en 2017 comme des travaux qui avaient été une avancée majeure dans l'année 2017. Alors, les constructeurs se disent, vous avez vu, ils se sont dit, on va faire de l'anatomie et de la fonction en même temps. Là, ils se disent, puisqu'il y a des accélérateurs de radiothérapie et qu'on a besoin des images, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un monitoring de la radiothérapie directement avec de l'imagerie embarquée dans les machines de radiothérapie? Alors ça, on pensait que c'était un doux rêve il y a quelques années. Vous voyez que là, c'est la machine LINAC IRM. Vous voyez qu'ici, il y a une IRM qui est totalement embarquée dans un accélérateur de radiothérapie et on peut faire une IRM à la demande lorsque le patient est repositionné. Alors le problème, c'est que le radiothérapeute, là, c'est bien une IRM, mais il a besoin d'un scanner. Donc il lui manque encore un scanner, mais il y a des travaux de recherche pour faire ce qu'on appelle des pseudo-scanners avec des IRM et de garder une distribution de la dose qui soit pertinente. Là, il y a deux appareils qui sont en cours d'installation en France. Vous voyez qu'on est vraiment dans quelque chose de très novateur. Et puis, alors voilà, on est toujours dans le même problème. Hein. Et puis, si on rajoute le blocos, il faut 10 millions. Donc là aussi, quelques problèmes de financement des hôpitaux. Et puis, il a été présenté ça par, là aussi, une équipe de recherche collaborant avec un industriel, l'année dernière, à l'ASTRO, l'American Society of Radiation Oncology, sur cette machine-là, où là, il y a un accélérateur de rayons X, donc un accélérateur de radiothérapie, et dans lequel il y a un PET scan embarqué à l'intérieur. D'accord ? Donc là, voilà, alors ça, c'est pas encore commercialisé, c'est du R&D, c'est du développement technologique, mais vous voyez que ça va assez vite. Alors, je m'étais dit qu'avant de... Alors, voilà, les prix annoncés, on est dans la même ordre d'idées. Hein, je pouvais difficilement, avant de conclure, et je vais être presque dans les temps, ne pas vous parler de l'intelligence artificielle. Il est bien évident que c'est un domaine dans lequel, en 2018, on a vu des choses importantes, alors qui partent de plusieurs raisonnements. Le fait que... Voilà, c'est inspiré de ces travaux, hein, là, des prix Nobel, Hubel et Wiesel, qui ont démontré comment s'organiser le cortex visuel. Voilà, et les réseaux de neurones convolutifs qui ont été développés par un Français, Yann Lecum, à Sophia Antipolis, a montré qu'on pouvait essayer de travailler un peu de la même façon. Il est probable que dans la salle, il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent mieux ça que moi. Mais, et donc, de décomposer les images médicales que l'on voit. Donc, on a des travaux sur ce thème-là, sur le fait de décomposer comme un œil voit une image. C'est-à-dire que quand je regarde la salle qui est là, je sais que mon cerveau commence par décoder des lignes horizontales, des lignes obliques, des lignes verticales, et que progressivement j'associe une texture, et puis des visages, etc. Eh bien, les logiciels, ce qu'on appelle les neurones convolutifs, font un peu la même chose. Ça s'est mis en place progressivement dans des logiciels d'interprétation. Et le NIH a mis aux États-Unis d'énormes moyens derrière ça. Et très vite, ils ont obtenu des bases de données importantes. Ils ont fait réanalyser par rapport à des experts des images de radiographie pulmonaire. Et l'année dernière, ont déjà été publiées des interprétations automatiques de radio pulmonaire qui montrent que les performances de l'ordinateur sont assez similaires aux experts. Alors bien sûr, on peut pas, quand on fait un peu de science, ne pas être un peu attentif à ce qui se passe au niveau scientifique. Donc ça fait quelques années qu'on s'est... Au départ, on est parti d'une thématique qu'on appelle la radiomique. Comment trouver des informations... Comme on fait de la génomique, comment trouver des informations pertinentes dans les pixels des images pour essayer de prédire quelque chose dans les traitements. Et on est parti de ça pour voir que finalement, ça nous amenait aussi vers ces problèmes d'intelligence artificielle. On a commencé par travailler sur la caractérisation d'images sur des descripteurs qui étaient construits par les humains. Donc c'était les humains qui donnaient la référence et on regardait comment l'ordinateur s'adaptait. Et puis ensuite, on a fait de la segmentation tumorale, puisque vous avez compris qu'un de nos problèmes, c'est quand on a sur une image une tumeur, il faut la localiser. Donc il faut la segmenter, donc il faut la découper, il faut faire des régions d'intérêt autour. Et pour faire ces régions d'intérêt autour, ce n'est pas si simple que ça. Et pour faire le bon contour, où est-ce qu'elle est la tumeur ? C'est pas sur un imageur, c'est pas toujours aussi simple. Et on a développé des technologies à partir des réseaux de neurones convolutifs, donc sans a priori humain, pour des segmentations sur les images PET scan. Ça, c'est des travaux qui sont encore en cours. Et on est parti sur des algorithmes de prédiction à la réponse au traitement ou sur des façons de reconnaître certaines anatomies particulières sur des images. Vous voyez, ici, on s'intéressait particulièrement à la masse maigre et à la masse grasse. Ce qui nous intéresse, c'est de segmenter automatiquement la masse maigre et la masse grasse, parce qu'on est en train de montrer qu'un patient qui a une chimiothérapie, c'est pas la même chose s'il est très volumineux, s'il a un gros volume de graisse ou s'il est très maigre. D'accord ? La chimiothérapie se répartit probablement pas de la même façon dans les tissus et l'effet d'actif sur les tumeurs est probablement pas la même. Donc il est probablement important de prendre ça en compte et comme on a plein d'images, eh bien il y a peut-être des images sur lesquelles on peut le mesurer facilement, c'est des questions que l'on se pose actuellement. Et ça, c'est des travaux qui sont vraiment en cours. Là, on a mis des images de PET scan dans un ordinateur et on a dit, tu les classes, il y a des patients qui sont normaux et des patients qui ont des lymphomes. Et donc l'ordinateur, alors il y a un petit bug informatique, mais l'ordinateur marche assez bien et arrive assez facilement, alors sans a priori humain, d'accord, c'est... On ne sait pas bien ce que fait le réseau de neurones convolutifs. C'est ça qui pose problème à des gens comme moi. C'est-à-dire que on est médecin, on voudrait comprendre comment ça marche. Alors, quand on fait des atlas, quand on fait des comparaisons par rapport à des atlas, on comprend ce qu'on fait. Quand on a un réseau de neurones convolutifs, qu'on lui rende des images et qu'on lui dit... Il y a une base d'apprentissage sur laquelle il y a des normaux, il y a une base d'apprentissage sur laquelle il y a des pathologiques, ensuite on lui met une autre population, on lui dit fais la classification et qu'il la fait bien sans comprendre ce qu'il fait, on est un peu inquiet, mais force est de constater qu'on arrive au final à avoir un résultat qui est quasi pertinent. Donc ce sera ma conclusion pour reprendre la phrase de Claude Bernard et pour refermer l'histoire. Nous saurons la physiologie lorsque nous deviendrons capables de suivre une molécule de carbone ou d'azote et de décrire son voyage dans le corps d'un chien de son entrée à sa sortie. J'espère vous avoir démontré qu'en 125 ans ou presque, on est allé quand même beaucoup plus loin, qu'on fait ça chez l'homme et que c'est la porte ouverte à ce qu'on appelle... C'est parti par le domaine de la génomique, la médecine personnalisée, mais on l'a aussi par le biais de l'imagerie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.